Vous écoutez France Culture.
Le journal vous est présenté par Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Un modèle de société bas carbone, c'était l'un des engagements de François Hollande et c'est l'objet du projet de loi sur la transition énergétique qui va être donc discuté ce matin en Conseil des ministres. Un projet ficelé par Ségolène Royal, la ministre de l'écologie. Parmi les grands objectifs, réduire la part du nucléaire à 50% à l'horizon 2025, diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 via notamment l'isolation thermique des logements, tout cela grâce à une enveloppe de 10 milliards d'euros mobilisée sur 3 ans sous forme d'investissements divers. Les précisions à ce sujet de Jean-Marc Chardon.
Le financement de la transition énergétique ne sera pas uniforme et les 10 milliards ne correspondent pas à un volume de dépenses budgétaires classiques. Une partie des fonds sera attribuée sous forme d'aides, de subventions, de prêts ou d'allègements fiscaux. L'idée centrale étant de jouer sur un effet de levier, c'est-à-dire procéder à des investissements performants et donc amplifier les résultats. Au cœur des financements, c'est la rénovation thermique qui est prioritaire. Ça se jouera à travers le crédit d'impôt développement durable qui sera renforcé et adapté. Les ménages pourront effectuer des travaux espacés dans le temps et les plus modestes bénéficier d'un chèque énergie. Encore faudra-t-il que les banques jouent le jeu. Un fonds de garantie devrait permettre de pratiquer des prêts à taux bas et les PME en quête de marché devraient trouver auprès de la BPI, la banque publique d'investissement, des conditions de prêts intéressantes, notamment pour des projets se diversifiant aux véhicules propres, au recyclage des déchets ou encore aux énergies alternatives. Appelées à soutenir les initiatives locales, les régions, elles pourront s'adosser à un fonds spécial d'1,5 milliard d'euros, de quoi générer quelques 100 000 emplois durables en 3 ans. C'est du moins une projection. Elle ne peut être qu'indicative.
Et au total, le projet de loi regroupe plus de 60 articles. Vous y reviendrez avec vos invités, Nicolas Martin, dans quelques minutes. La Russie a été sévèrement sanctionnée par les États-Unis et l'Europe pour son rôle dans la crise ukrainienne. Le président américain a annoncé hier de nouvelles mesures visant l'énergie, la défense et la finance. Quelques heures plus tôt et après plusieurs mois de tergiversation, les diplomates de l'Union européenne ont eux aussi acté de nouvelles mesures de rétorsion, comme la fermeture de l'accès des banques russes détenues par l'État au marché des capitaux européens ou d'autres mesures ciblant le secteur de la défense et des technologies dites sensibles, des mesures longuement discutées car susceptibles de toucher aussi l'économie européenne. Le pilonnage de la bande de Gaza a continué cette nuit, l'armée israélienne cherchant plus que jamais visiblement à détruire les infrastructures du Hamas en visant le ministère des Finances, la télévision, à l'accès la seule centrale électrique de l'enclave ou encore des mosquées. Ainsi, cette plaie ouverte au cœur de la ville, touchée par une explosion hier, la mosquée Al-Amin Mohamed, l'une des plus grandes de la ville. Notre envoyée spéciale Mathilde Lemaire s'est rendue sur place.
À la place de la mosquée, un cratère géant, 5 mètres de profondeur. Un avion F-16 a transpercé le bâtiment. Des parpaings en morceaux, des tiges de métal, des planches de bois pulvérisées. Abou Mohamed, 53 ans, sidéré, prend des photos.
Je suis horrifié, je ne veux pas croire ce qui est arrivé. C'est arrivé à notre mosquée, un lieu que je croyais sûr. Après chaque prière, la porte est refermée à clé. Ce n'est pas un repère de combattants comme veut le faire croire la propagande israélienne.
Dans l'air, une odeur persistante de poudre. Des pages de Coran, encore fumantes, se mêlent au reste d'obus. Les fidèles n'attendent pas pour déblayer. Adil, la quarantaine, observe.
Comment peut-on bombarder un lieu de culte? La maison de Dieu, ils ne respectent rien. De toute façon, ce massacre, ça n'intéresse plus personne dans ce monde.
Adil garde l'oreille collée à son mobile. Il écoute la radio du djihad islamique. Mahmoud, 70 ans, contemple ce chaos. Sa djellaba, immaculée, contraste avec ce paysage calciné. Mahmoud est à bout de nerfs.
J'ai d'abord fui mon quartier qui a été entièrement détruit par l'aviation. J'ai trouvé refuge ici. Voilà que ça bombarde ici aussi. Qu'est-ce que je dois faire? Fuir encore? Mais pour aller où?
Des fidèles ont installé des tapis sur la route devant ce qui reste de la mosquée. C'est là qu'ils prieront désormais.
Et on dénombre cette nuit encore plusieurs dizaines de morts palestiniens, notamment dans une deuxième école de l'ONU suspectée de servir de cache d'armes. Côté diplomatique, on fait toujours mine de s'activer. Des médiateurs égyptiens ont préparé une nouvelle mouture d'une médiation destinée à obtenir un arrêt des combats. Une délégation palestinienne est attendue au Caire. En Chine, une vaste enquête pour corruption à l'origine de l'arrestation de plusieurs dignitaires du régime continue de faire des victimes. Et cette fois, c'est le plus haut personnage du Parti communiste chinois depuis des années qui est sous le coup d'une enquête. Chu Yongkang est l'ancien patron de la sécurité chinoise, chef de la police et des services de sécurité pendant 10 ans. Il était l'un des hommes les plus puissants du pays. Les précisions à Pékin de Léo Sira.
Chu Yongkang, l'ancien chef de la sécurité publique en Chine, est officiellement l'objet d'une enquête du Parti communiste. C'est le plus haut dignitaire chinois inquiété depuis le procès de la bande des quatre en 1980. L'ancien chef de la police et des services de sécurité intérieure chinois pendant 10 ans, sorte de super ministre de l'intérieur, est accusé de violation grave de la discipline, une formulation souvent utilisée pour désigner des faits de corruption. Âgé de 71 ans, Zhou avait occupé son poste jusqu'en 2012. Il était également membre du comité permanent du bureau politique du Parti communiste, la plus haute instance dirigeante. Zhou bénéficiait par ailleurs d'un puissant réseau parmi le lobby de l'industrie pétrolière chinoise, où il avait fait ses premières armes. Selon plusieurs journaux, une enquête interne au parti avait déjà été lancée en décembre dernier. Plusieurs anciens collaborateurs de Zhou étaient d'ailleurs tombés pour corruption entre-temps. Après le procès retentissant de Bo Xilai l'an dernier, considéré comme proche de Chu Yongkang, le président chinois Xi Jinping montre que sa campagne de lutte contre la corruption ne connaîtra pas de limite. Populaire auprès de la plupart des Chinois qui souffrent de la corruption au quotidien, cette campagne est pourtant considérée comme une purge par beaucoup d'experts qui y voient un moyen pour le nouveau président d'asseoir son pouvoir à tous les niveaux.
Léo Sira, si en Europe le changement climatique pousse à grand-peine les gouvernements à engager quelques réformes, on l'a vu, il est des populations pour lesquelles il s'agit d'un danger de vie ou de mort. En ce moment, dans l'archipel de Palau, en Océanie, se tient le 45e sommet du Forum des îles du Pacifique Sud. Les représentants de ces 16 États membres du Forum planchent depuis hier sur les graves menaces que fait peser le changement climatique sur ces territoires insulaires, des atolls paradisiaque que la montée des eaux pourrait bientôt faire disparaître. Ézéchiel Fernandez.
Parmi ces territoires menacés, les archipels de Tuvalu, Kiribati et des Marshall, les plus concernés sans doute par les risques de submersion. Ils sont d'ailleurs déjà confrontés à des situations de crise avec des populations forcées régulièrement par l'océan à se réfugier sur les hauteurs. Depuis quelques années, et ce sera de nouveau le cas lors de ce forum, les dirigeants de ces confettis perdus dans le Pacifique mettent directement en cause les pays industrialisés responsables des émissions de gaz à effet de serre et donc du réchauffement climatique. Et ils leur demandent de mettre la main au portefeuille pour, à minima, leur permettre de se protéger de la montée des eaux via, par exemple, des programmes de plantation de mangroves afin de créer des zones tampons naturelles entre l'océan et les terres. Ce dérèglement planétaire génère non seulement la montée des océans, mais il a pour effet d'augmenter la température des eaux et d'éloigner les poissons vers des zones plus froides. Or, la pêche représente pour ces petits pays du Pacifique une des rares ressources naturelles indispensables au fonctionnement de leur économie. Rappelons que le prochain grand rendez-vous climatique mondial aura lieu l'année prochaine chez nous, à Paris. Il s'agira une fois de plus de tenter de prendre des mesures contraignantes pour les pays industrialisés et non plus incitatives, pour tenter de maintenir le réchauffement de la planète sous la barre des 2 degrés d'ici 2100, alors qu'au train où nous allons, la température moyenne pourrait grimper de 5 degrés d'ici la fin de ce siècle, au risque de voir la part des terres habitées se réduire comme peau de chagrin dans cette partie du Pacifique, mais aussi dans l'océan Indien ou sur les zones littorales de tous les continents, y compris le nôtre.
Le temps sur la France, il se réchauffe aussi un peu en ce mercredi 30 juillet. Des nuages tout de même ce matin de la Lorraine à l'Auvergne. Beau temps au nord-ouest et sur le sud-ouest après dissipation des grisailles. Les températures de 12 à 20 degrés ce matin, de 20 à 32 en Provence cet après-midi.